Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Foi et Turbulence. Au microphone, c'est Francine Robert. Aujourd'hui, je vais changer de chaise et j'occuperai la position de l'invité. Et c'est ma collègue Sylvie Latreille qui animera cette conversation, car je souhaite vous présenter le grand thème de la sagesse biblique. Bien sûr, plein de gens connaissent les prophètes, la Genèse, l'Exode, probablement les psaumes, mais j'ai constaté que les livres de la sagesse sont les grands méconnus ou les grands oubliés de la culture biblique générale. Pourtant, ce sont des livres fascinants à plus d'un titre, et j'essaierai de montrer qu'ils proposent plusieurs réflexions très pertinentes encore pour nous aujourd'hui. Sylvie Latreille, bonjour et merci d'avoir accepté d'animer cette entrevue pour nous.
Bienvenue Francine. Vous allez nous aider à entrer dans un monde que je connais très peu, la sagesse dans la tradition biblique. Par ailleurs, il me semble que la sagesse, ça n'appartient pas exclusivement au monde de la Bible.
Et non.
Nous sommes d'accord avec ça.
Heureusement d'ailleurs.
Si je vous demandais spontanément, comment est-ce que vous définiriez la sagesse? Qu'est-ce que vous diriez?
C'est un art de vie, peut-on dire. Ça a quelque chose de à la fois très concret sur la manière d'agir, tout ça, puis en même temps quelque chose de profond. Là, j'ai l'image d'un vieux sage, là, vous voyez, qui porte sur la vie un regard pénétrant, disons, sur les enjeux de l'existence. C'est un peu de tout, la sagesse, mais un art de vivre.
Un art de vivre. Oui. J'aime l'image comme un vieux sage.
Et ça peut être une vieille sage.
Oui. Il me semble aussi qu'il y a l'idée d'une sagesse populaire.
Ah oui, et qui s'exprime beaucoup dans des proverbes. Si pendant une journée, vous restez attentive, je pense qu'il n'y a pas de jour où on n'en entend pas un ou l'autre à la radio ou des gens qu'on voit ou qui nous en vient à l'esprit. Hein. C'est de la sagesse populaire. C'est toujours d'ailleurs des formules bien tapées, là. On pourrait juste s'amuser à faire un petit test. Je vous donne le début, je suis sûr que vous allez avoir la fin.
D'accord, j'espère que je vais passer le test.
Allez-y. Ouais, j'en doute pas une seconde.
Allez-y.
Les auditeurs pourraient se
prêter
à eux-mêmes aussi.
Oui.
Alors, disons, rien ne sert de courir.
Il faut partir à point.
Eh ben oui. Et mieux vaut prévenir.
Que guérir.
Bon, nous voyons. On a souvent besoin d'un plus petit que soi.
Jamais 203.
Oui, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Même ces choses-là, ça vient des fables de La Fontaine, d'ailleurs. On voit que c'est des formules verbales très, très condensées, très bien frappées, hein, qui restent dans les mémoires, qui se transmettent peut-être depuis beaucoup
de générations.
Dans exactement.
Les familles.
Et vous savez, Sylvie, c'est comme ça dans toutes les cultures. Hein. La nôtre, la culture biblique, quand je donne mon cours, des fois, j'ai des étudiants qui viennent de pays étrangers.
Exact.
J'ai eu des exemples, je vous en donne quelques-uns. Oui. Un proverbe arabe, « Une fourmi noire sur une table noire dans la nuit noire, Dieu la voit. »
Si je vous demandais, c'est quoi la signification?
Rien n'échappe à Dieu.
Mais,
c'est
oui,
le
hein,
sens
c'est l'idée qui viendrait à l'esprit.
Ouais,
hein?
Ouais, ouais. Oui. Le Japon, et celui-là, ça correspond bien au cliché qu'on a sur la culture japonaise.
Oui.
Endurer ce qu'on ne peut pas endurer, c'est ça l'endurance.
Et on a vu hein, tout ce que le Japon a pu traverser, comme les intempéries.
Puis comment ils sont résistants.
Résistants et la résilience.
Résilient,
hein,
tout
c'est
à
un
fait.
Peuple résilient.
Ouais. Un bon vieux proverbe italien que plein de gens connaissent, che va piano va sano.
Oh hein, là là.
Qui va lentement va sûrement. Hein,
effectivement.
En français. Un proverbe que m'a donné une étudiante africaine.
Oui. Hein,
il vaut mieux savoir où on veut aller, même si on n'a pas les moyens d'y aller, que d'avoir de grands moyens et de pas savoir où l'on va.
Il me semble que ça s'applique spécialement bien en éducation.
Ah,
aussi.
En effet,
vous êtes d'accord
vous
avez
raison,
avec moi?
Oui.
Avec ce dernier adage, il me semble que ça montre bien qu'il y a une application, que c'est très concret finalement.
Oui, oui. C'est vraiment la vie quotidienne, pratique. Cette forme-là de sagesse, les proverbes, les adages, ça a un côté très pragmatique, très au ras de la vie. Ça reflète souvent aussi les valeurs d'une société, hein. Même des fois, c'est un peu inquiétant. Mais, ou alors, ça propose des valeurs. Des fois, j'aime mieux le penser comme ça quand je pense à des proverbes sur l'argent. Hein, comme,
oui, l'argent n'a pas d'odeur.
Oui, hein, c'est un peu inquiétant. Il me semble, toutes les questions de corruption, hein, parce que ça va dans ce sens-là. Ou le temps, c'est de l'argent.
Ça montre bien comment est-ce que nous courons constamment.
Oui, hein, oui,
et on n'en veut pas en perdre de temps parce que c'est une question monétaire,
ça devient une question d'argent, c'est
effectivement.
Alors, vous voyez, c'est une espèce de bazar, les proverbes. Hein. Quelle que soit la culture, c'est un bazar, un marché aux puces.
J'aime l'image.
Oui, moi aussi, c'est
J'aime beaucoup
assez
l'image,
oriental.
Et on voit bien, hein, un bazar, on y retrouve de tout.
Et de toute valeur, et des perles à côté de la Camelot, la plus cheap, si vous me permettez. Dans les proverbes, on a aussi des belles petites tendances moralisantes, des recettes à la petite semaine.
Oui.
Certain conservatisme aussi. La sagesse traditionnelle est assez conservatrice.
Assez conservatrice. Hein.
Elle est associée à la transmission de l'héritage par les anciens. Et donc, ça tend à se figer un petit peu. Hein. Mais c'est pareil, hein, dans la Bible. Je vous donne quelques exemples. Dans le livre des proverbes,
oui.
La porte tourne dans ses gonds et le paresseux sur son lit. Vous voyez, c'est très concret, finalement.
Oui.
C'est une sorte de constatation. Peut-être un petit peu plus inspirante. Ne te félicite pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'aujourd'hui enfantera.
J'aimerais qu'on entre un peu plus dans la tradition biblique. Pouvez-vous nous nommer les livres que l'on dit hein, de la tradition sapientielle? C'est bien ça,
oui,
hein, quand on parle
mot,
de sagesse.
C'est le mot, tradition sapientielle.
Oui.
Le livre des Proverbes, dont j'ai commencé à parler, le livre de Job, le livre de Coëlette, auquel nous reviendrons, ou l'Ecclésiaste. Et il y a aussi le Siracide, ou Ecclésiastique.
L'Ecclésiastique.
Et le livre de la sagesse de Salomon. Ces deux derniers, Siracide et Sagesse, ne sont pas dans la Bible hébraïque et donc ne sont pas dans les Bibles protestantes parce que ce sont des écrits très tardifs, là. Deux siècles, un siècle avant Jésus.
Oui. Ils ne sont pas entrés dans le
canon.
Ils
n'ont pas été retenus
dans le canon
hébraïque, c'est ça. Beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent non-croyants ou sont peu pratiquants aiment lire et relire les livres de Job et de Coëlette particulièrement.
Pour quelle raison, pensez-vous?
Je pense qu'il y a là une sorte de sagesse un peu existentielle, une réflexion sur la souffrance aussi, qui correspond à des mentalités actuelles. Et lorsqu'on est un peu en distance avec la religion aussi, on a moins envie de lire, disons, les prophètes qui, à tout bout de champ, nous rappellent qu'on doit être fidèle à Dieu ou tout ça. Les traditions bibliques de sagesse sont certainement les traditions les plus séculières de la Bible.
Hein?
On n'a pas Dieu à toutes les pages.
Je voulais revenir là-dessus parce qu'il y a autre chose aussi là, dans ces livres des proverbes. Là.
Oui, on va parler un peu du livre des proverbes, si
oui,
vous voulez bien,
bien.
Dont je conseille la lecture aussi. Quoique, comme tous les livres de proverbes, lire pendant 20 minutes de temps des phrases de 10 mots qui suivent pas, c'est un peu fatigant.
Il y a quelque chose d'aride,
oui.
Hein?
Mais dans n'importe quel livre, je me suis tapé un recueil de proverbes québécois.
Oui.
Au bout de 20 minutes, j'en avais assez.
J'en avais assez.
Faut lire ça par petits bouts. Hein,
oui, je suis d'accord avec vous.
Alors donc, le livre des proverbes, dans la Bible, il se présente au début comme étant un recueil des proverbes du roi Salomon. Hein. Bon, c'est une manière de dire, hein, parce que il était courant dans l'Antiquité d'attribuer les textes de sagesse à des rois. Et Salomon, dans la tradition biblique, il est perçu comme le sage par excellence. Mais c'est sûr qu'il n'est pas l'auteur. Là. Le livre des Proverbes ramasse 7 grandes collections, là, 7 sections. Le chiffre 7. Et chacune a un titre, et certains de ces titres-là attribuent la collection à d'autres sages. Alors, on peut dire qu'il y a dans ce livre-là des traditions très anciennes, mais que le tout, regroupé en un livre comme celui que nous avons, ça a été édité de façon finale aux environs du 3e siècle avant Jésus.
Ce qui est comme récent.
Oui, le rassemblement en un recueil est récent, mais dedans, il y a des matériaux très anciens qui remontent à la période
monarchique. Qui ont été transmis dans la tradition orale.
Oui, et peut-être écrites aussi. Le mot hébreu, Sylvie, j'aimerais en dire
quelques... Oui, certainement. Que veut dire ce mot-là,
sagesse? C'est intéressant. Le mot hébreu qui est derrière, c'est un mot qui sert dans toutes sortes d'autres contextes et qu'on ne traduit pas par sage ou sagesse. C'est un mot qui désigne l'habileté d'un artisan, l'habileté d'un ouvrier. On parle de femmes qui sont de très bonnes fileuses et on dit qu'elles sont douées de sagesse. On pourrait traduire ici douées d'habileté, de savoir-faire. Vous voyez, c'est très concret le mot à l'origine. Le sage, c'est quelqu'un qui possède un savoir-faire.
qui est capable de maîtriser.
Oui, une technique.
Une technique.
Oui, on n'est pas dans la philosophie abstraite.
Absolument
avec la sagesse.
Hein.
C'est, je vous lis une petite phrase de premier livre des Chroniques au chapitre 22. Il y aura plusieurs artisans, des carriers ou tailleurs de pierre, oui. des sculpteurs, des charpentiers, toutes sortes d'experts. Le mot ici que j'ai traduit expert, c'est le même mot qu'ailleurs on traduirait sage.
Et c'est vraiment relié hein,
au travail,
à ce travail manuel.
Oui, dans la Bible, il y a un grand respect pour le travail manuel. Et ça me faisait penser, quand je relisais mes notes là-dessus, au monde rural du Moyen-Âge, le forgeron était reconnu comme un sage dans les villages.
Extrêmement
intéressant.
À travers ce que vous nous dites, il me semble qu'il y a aussi une vision du monde.
Oui.
Ce savoir-faire contribue à une vision du monde.
Oui. Et le sage, c'est celui qui regarde le monde, qui l'observe avec attention, avec minutie, avec joie. Le monde l'intéresse. Il est pas dans le temple en train de prier Dieu, lui. Il se promène, puis il voit tout ce qui se passe sur la rue, il regarde les vendeurs, il va observer les relations entre les parents et les enfants au magasin. Tout l'intéresse, il observe la société. Alors, très réaliste, hein? Je vous donne quelques exemples. À la main diligente, le commandement. À la main nonchalante, la corvée. C'est souvent comme ça que ça se passe.
Hein? Effectivement.
Qui va rappeler quelque chose de connu. Qui épargne le bâton n'aime pas son fils, mais qui l'aime se hâte de le châtier. Ça me rappelle...
Qui aime bien châtier.
Je pense que ça doit venir de là.
Oui, et aujourd'hui, il me semble que ça résonne un peu moins bien avec la sensibilité culturelle dans laquelle nous sommes.
Oui, c'est plus notre monde. Mais des exemples qui, je pense bien, pourraient tout aussi bien nous inspirer aujourd'hui.
Oui.
La maladie, l'esprit humain peut l'endurer, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Ça me c'est parlant, ça. Le naïf croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent avance avec réflexion.
Ce dernier exemple illustre bien ce que peut évoquer un sage.
En effet. Hein? Et un petit dernier comme ça pour se faire plaisir. Mieux vaut un plat de légumes là où il y a de l'amour qu'un bœuf gras assaisonné de haine. Que c'est donc vrai, hein? Vous voyez, c'est des vieux proverbes, là.
Mon Dieu, leur pertinence.
C'est la période royale, là. Mettez, donnez-lui 2600 ans d'âge à ce proverbe.
Alors, c'est très actuel.
Ouais. La condition humaine change pas beaucoup, hein, à certains égards, en tout cas. Ça reflète donc une vision du monde, des valeurs, une certaine notion du bonheur aussi. Et comme vous voyez, c'est pas très théologique tout ça. Hein?
Depuis le début de l'émission, je me posais la question, nous sommes dans la tradition biblique, la tradition sapientielle et la place de Dieu.
Dieu est présent dans les proverbes, mais même lorsqu'il y est, les contenus ne sont pas plus théologiques qu'il faut. En fait, curieusement, la sagesse dans l'Ancien Testament ne réfère pas aux traditions historiques classiques. On ne parle pas de l'Exode, hein, de la délivrance de d'Égypte. On ne parle pas comme les prophètes de l'Alliance, Moïse, ni du Temple. Rien de tout ce qui, dans les autres livres, apparaît comme l'essentiel de la relation privilégiée entre Israël et son Dieu. Vous voyez, la sagesse biblique, ça a quelque chose d'universel. C'est tout être humain, c'est la vie concrète de tout être humain. On pourrait dire c'est la condition humaine qui l'intéresse. Tellement universel que ça va même faire beaucoup d'emprunt aux sagesses étrangères, entre autres un sage égyptien du 12e siècle dont on connaît les écrits qui s'appelait Amenemhopé. Oui. Alors, vous voyez, cette ouverture aux autres cultures en fait une sorte de littérature profane, finalement. Il n'y a rien de théologique dans quelque chose comme un proverbe qui me paraît tout à fait refléter ce qu'on pense aujourd'hui. « Cœur joyeux améliore la santé, esprit déprimé dessèche les eaux. »
C'est tellement actuel.
On pense comme ça. Hein? On n'a pas besoin de Dieu pour penser comme ça. Alors, voilà. Je vous en donne un autre à cause de tout ce qu'il y a ces temps-ci sur la corruption, la construction puis tout ça. « Un cadeau ouvre toutes les portes et vous mène en présence des puissants. »
Alors là, ça ne peut pas être plus actuel.
Donc, vous voyez, c'est vraiment très séculier, tout à fait profane. Dieu est présent, mais dans un domaine qui pour nous est moins familier. Dieu, il est celui qui garantit l'ordre du monde. La sagesse, ça marche sur l'ordre du monde. Cette conviction qu'il y a un ordre naturel du monde. Ça, c'est complètement différent de notre mentalité actuelle, mais c'est la mentalité des sociétés de l'Antiquité. L'ordre du monde, l'ordre de la société, il est tel que les dieux ou Dieu l'a créé, l'a voulu. C'est ça. Dans sa sagesse, Dieu a conçu le monde ainsi. C'est lui qui en garantit l'ordre. Et cet ordre-là, il est dans tous les aspects de la vie, dans la nature et dans la société. Et je disais, il y a des emprunts à l'Égypte. Oui. C'est exactement la même mentalité.
C'est la même mentalité.
Exactement. Et on a plusieurs écrits de sagesse transmis donc par les scribes égyptiens. Et on voit dans leur texte, dans l'avisée, c'est donner les moyens de vivre dans le monde en conservant l'ordre du monde et en l'accomplissant d'une certaine manière. Je dirais, Sylvie, pour faire une aparté, les préoccupations écologiques aujourd'hui relèvent de ce type de sagesse.
De la même.
Ouais, cette même intuition qu'il y a un ordre et ce serait bien sage de notre part d'essayer de comprendre comment fonctionne la nature pour l'aider à bien fonctionner au lieu de lui nuire.
Et l'enjeu, c'est la survie de l'être humain.
Exactement. Alors, ici, on retrouve, au fond, l'espèce d'intuition qu'il y avait dans les sociétés de l'Antiquité. Il y a un mot en égyptien pour désigner cet ordre du monde. Oui. C'est un mot féminin, d'ailleurs.
Quel est-il?
La Maat, M-A, A accent circonflexité, la Maat.
En égyptien.
Oui, et ça désigne, tout comme la sagesse en Israël, ça désigne l'état ordonné et juste de la nature et de la société. Et Dieu, ou les dieux en Égypte, garantissent cet ordre.
Pourrions-nous même affirmer que c'est la clé importante pour comprendre la sagesse biblique?
Oui, parce que ça relève de la même intuition. C'est-à-dire que cette intuition-là, les sages bibliques ne l'ont pas empruntée aux Égyptiens. Ils la partagent avec tous les sages de l'Antiquité, pourrait-on dire. Mais ils ont emprunté, en tout cas, ils se sont inspirés certainement de traditions égyptiennes. Je vous donne quelques exemples.
Oui, donnez-nous des exemples.
Oui. Alors, dans la sagesse de Amenemopé, garde-toi de voler un malheureux et de t'emporter contre un faible. On trouve dans la Bible, ne dépouille pas le faible, c'est un faible, et n'écrase pas l'homme d'humble condition au procès. Vous voyez la même idée.
Oui, tout à fait.
Mais la Bible ajoute dans son proverbe, car le Seigneur plaidera leur cause et ravira la vie de leur ravisseur. Ça, c'est plus biblique. Hein? Ouais. C'est Dieu qui apparaît comme l'avocat,
le défenseur
des opprimés. Dieu encore, là je suis dans le livre biblique des Proverbes, qui se moque de l'indigent insulte son créateur, qui se réjouit d'un malheur ne restera pas impuni. Et il est un peu plus nommé ici, particulièrement comme défenseur du faible, que dans la sagesse égyptienne. Un autre bon conseil égyptien, tiens.
Oui, allez-y.
Ne fraternise pas avec l'homme impulsif, ne t'approche pas de lui pour faire la conversation.
Est-ce que nous avons un parallèle aussi?
Oui. Ne te fais pas l'ami d'un homme impulsif et ne va pas avec l'homme emporté.
C'est intéressant de voir comment, à travers deux traditions différentes, elles reflètent par ailleurs toutes les deux une condition, je dirais, de la vie courante.
Tout à fait. Il y avait probablement des emprunts conscients là de la tradition biblique chez les Égyptiens. C'est dans ce sens que c'est un courant de pensée très universel, beaucoup plus que les prophètes, par exemple, qui sont centrés sur l'alliance entre Israël et Dieu. Là, cette sagesse, il y avait vraiment une ouverture à l'universalité.
Nous pouvons comprendre comment ces proverbes, encore aujourd'hui, ont tant d'écho pour nous.
Oui, je le pense. Oui, certainement.
Ça transcende, je dirais, le temps.
Oui. Pour évoquer cette universalité, Sylvie, justement, j'aimerais vous proposer d'écouter un chant russe qui a été composé en l'honneur d'un certain Oleg le Sage. Oh,
Je suis toujours en compagnie de ma collègue Francine Robert dans cette tradition sapientielle.
Oui, Sylvie, je disais que la sagesse, donc, dans les civilisations de l'Antiquité, elle s'enracine dans la conviction que le monde, la nature, les sociétés humaines, tout l'ensemble du monde est fondé sur un ordre profond qui a été voulu par le Dieu créateur ou les dieux créateurs, si on est par exemple en Égypte. Donc, le corollaire de cette conviction, c'est qu'il est sage de comprendre cet ordre du monde, hein, cet ordre de la réalité, pour bien s'y ajuster et, on pourrait dire, dans des mots plus contemporains, vivre en harmonie avec l'univers. C'est bien sûr la façon d'être heureux et de réussir sa vie. Puisque c'est fondé sur l'ordre du monde, il y a cette conviction que si on transgresse cet ordre du monde, ça va entraîner pour nous des mauvaises conséquences, finalement, des conséquences désastreuses. Hein. Oui. Pensez à aujourd'hui, quand on crache en l'air...
Ça va nous retomber sur le nez.
Voilà, c'est bien la même chose que ça veut dire. Alors, formulé dans le livre des Proverbes, par exemple, « La justice des hommes droits les libère, mais les perfides sont pris au piège.
»
Une autre manière de garantir, donc, que si tu te conduis mal, tu vas devoir en assumer les conséquences, c'est d'attribuer les conséquences à Dieu lui-même. Hein. Par exemple, Dieu qui t'observe rend à chacun selon ses œuvres.
Oui.
Ou encore, la crainte de Dieu accroît les jours, mais les années des méchants seront raccourcies. Donc, cette idée que si on se conduit bien, on a une vie heureuse, puis si on se conduit mal, ça va aller mal pour nous. Quand c'est Dieu qui garantit ça, ça s'appelle, chez les spécialistes, on parle de la doctrine de la rétribution.
Par ailleurs, Francine, là, j'ai un problème.
Oui,
un gros problème.
Allez-y.
Oui, je ne sais pas si on a le même, mais il me semble que là, il y a des situations contraires aussi qu'on va retrouver dans des récits bibliques, et je pense à l'expérience de Job.
Oui, tout à fait. C'est clair qu'il y a une limite à cette espèce de vision optimiste du monde qui dit « si tu te conduis mal, ça va te retomber dessus ».
Oui, et là, si je me conduis
Job
bien…
Et Job et Kohelet vont…
Se conduisent bien et tout leur tombe dessus.
Ben voilà, exactement.
Alors là, ça marche
Alors,
plus.
Il y a une naïveté dans cette sagesse. En fait,
c'est intéressant.
La sagesse populaire a tendance à durcir les choses, puis à simplifier, puis… c'est pour ça qu'elle est une sagesse populaire. On a toujours l'impression que ça marche. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ben, je connais plein de gens qui s'aident, puis qui travaillent fort, et puis
le ciel
les aide pas.
Peut-être aussi,
ne
mais
semble pas,
pas
les
pas
aider.
À la même vitesse qu'on
voilà,
le souhaiterait.
C'est ça. Oui. Donc, il y a des simplismes à un moment donné, et la sagesse traditionnelle biblique va durcir ces simplismes-là, de sorte que ça va finir par devenir les intelligents et les autres,
c'est comme
les
si
sages
le monde
et les
était,
sots, du
dualiste, hein, le dualisme c'est ça. Hein, est séparé en deux.
Les livres de Job et de
Kohelet vont proposer autre chose.
Ouais. Mais quand même, faut pas laisser les gens sur l'impression que ça n'est que du simplisme. Hein. Quand on regarde les livres des Proverbes, on voit qu'il y a des contradictions. Et comme dans la nôtre, dans notre sagesse traditionnelle, il y a des contradictions. Ce qui montre, à mon avis, qu'il y a de la place là pour raisonner, pour prendre une décision. Bon, je vous donne un exemple.
Oui, allez-y.
Main indolente, ou si on veut, main paresseuse, appauvrie, main diligente, enrichie.
Oui.
Ça, c'est au chapitre 10, verset 4. Plus loin, même chapitre, verset 22, c'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit, et le tourment n'y agitera rien.
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'il faut travailler main diligente pour s'enrichir ou bien non, c'est Dieu qui m'enrichit? On a le sentiment
alors,
qu'il y a une contradiction.
Une contradiction entre les deux, effectivement.
Puis il y en a dans la sagesse égyptienne autant. Et il y en a dans la nôtre, hein, je pense à « un je tiens vaut mieux que deux tu l'auras hein. ». Ça veut dire « sois prudent, risque pas ».
Oui, mais qui ne risque rien n'a rien non plus.
Ben voilà, donc on dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que je risque ce que j'ai pour avoir autre chose?
Oui,
ben non, je me tiens avec ce que j'ai au lieu de deux, tu l'auras. C'est aussi typique des sagesses traditionnelles. Ça manifeste que la réalité humaine, ben elle est complexe et que y a pas de loi abstraite. Hein? C'est pas du dogme, cette affaire-là.
Ce sont les observations.
Des observations, et chacun est toujours renvoyé à sa situation concrète pour prendre une décision sur comment il va se conduire. C'est du cas par cas.
Au moment où ça arrive aussi.
Oui, c'est ça, proverbe, la situation.
Oui, un proverbe peut être très approprié pour une situation et pour quelqu'un d'autre dans la même situation ne sera pas approprié.
Exactement.
Effectivement.
Donc, on n'est pas du tout dans le dogmatique, on n'est pas du tout dans le croix ou mas. Ça renvoie au jugement personnel, ça renvoie à la rationalité humaine.
Et à l'expérience.
À l'expérience, à la réflexion sur qu'est-ce qui est raisonnable dans telle circonstance.
Oui.
Dans ce sens-là aussi, c'est très séculier, la sagesse.
Oui, effectivement. Et moi, j'aime bien, je reprends encore votre image du bazar qui, tout à l'heure, a vraiment fait écho pour moi. Et on le voit bien, justement, que cette image du bazar, elle illustre aussi ce qui fait pour un ne fera pas nécessairement pour l'autre. Et on retrouve de tout.
En effet, on y retrouve de tout. Et on est renvoyé toujours à réfléchir pour voir qu'est-ce qu'on applique soi-même dans la situation où on est.
Quand je vais aller dans un bazar, Francine, c'est parce que je veux acquérir un bien.
Oui.
Je vous écoute, là, et il me semble que la sagesse est un peu comme un bien précieux à acquérir.
Oui, en effet. Et elle est présentée comme quelque chose que tout le monde peut acquérir, très démocratique.
Oui.
Bon, je vous donne deux exemples où le sage nous présente la sagesse comme un grand bien.
Oui.
Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or. Acquérir le discernement est préférable à l'argent. On ne peut pas être en désaccord avec ça.
Qui ne rêve pas?
Ouais. Hein? Le bon sang est source de vie pour ceux qui le possèdent. L'éducation des sots, c'est la sottise.
Et le bon sang, le gros bon sang.
Le gros bon sang.
Je suis certaine que dans votre entourage, vous avez de ces personnes qui n'ont peut-être pas eu la chance d'aller à l'école aussi longtemps qu'elles l'auraient souhaité, mais elles ont ce sens du gros bon sang.
Exactement.
Qui fait du bien.
Et on les considère comme des sages.
Effectivement, et ce sont des personnes, souvent des personnes âgées. On va aller les consulter. Pourquoi? Parce qu'elles ont ce sens de la vie et du gros bon sens.
Et l'expérience, comme vous disiez, c'est ça, exactement.
Oui.